Radio Prague, les informations.
Bonjour, le ministre de l'Intérieur allemand remet sur le tapis l'idée de sanctions financières pour les États récalcitrants aux quotas migratoires. Confirmation de la baisse de la dette publique tchèque. Et puis 7 alpinistes, dont 3 tchèques, ont été tués par une avalanche dans les Hautes-Alpes. Après l'échec retentissant de la réunion des ministres de l'Intérieur à Bruxelles lundi pour tenter de trouver une solution commune européenne à la crise migratoire, le ministre de l'Intérieur allemand Thomas de Maizière a remis sur la table l'idée de réduire les fonds structurels versés par l'Union européenne aux pays qui rejettent l'idée de quotas de répartition des réfugiés. « Nous devons parler de moyens de pression », a-t-il déclaré à la chaîne publique allemande ZDF. « Les pays qui refusent la répartition par quotas sont souvent des pays qui reçoivent beaucoup de fonds structurels. Je trouve aussi juste qu'ils reçoivent moins de moyens. » Fin de citation. Lundi, la République tchèque, mais aussi ses voisins centre-européens, ont vigoureusement réitéré leur refus des quotas obligatoires pour répartir entre les États membres les dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent en Europe. Et évidemment, côté tchèque, on a réagi à cette déclaration. Selon le ministre tchèque de l'Intérieur, Milan Chovanec, la politique inconsistante, dit-il, de l'Allemagne est le plus gros problème dans le règlement de la crise migratoire. Il a vivement critiqué l'attitude de l'Allemagne, qui s'était dite prête à accueillir tous les réfugiés syriens avant de décider de rétablir temporairement ses contrôles aux frontières. Selon le ministre tchèque, le fait de faire les gros bras vis-à-vis de ses voisins ne cacherait en rien le fait que l'Allemagne soit la première à être responsable de la situation actuelle. Le montant de la dette publique de la République tchèque a baissé de 650 millions de couronnes au cours des 6 premiers mois de cette année pour s'élever à 1663 milliards de couronnes. Les données de la mi-juillet se sont ainsi confirmées, a annoncé le ministère des Finances. Cette somme totale représente une dette de 158 000 euros. Couronne par habitant. En 2014, la République tchèque était parvenue à réduire sa dette publique d'environ 20 milliards de couronnes, soit la première réduction enregistrée depuis 1995. 8 alpinistes ont été pris dans une avalanche ce mardi midi dans le massif des Écrins, selon la préfecture des Hautes-Alpes en France. Selon les informations disponibles, l'avalanche aurait fait 7 morts, parmi lesquels 3 tchèques et 2 allemands. L'unique survivant de nationalité polonaise souffrirait toujours selon le préfet d'un grave traumatisme à la jambe. Toujours d'après ce dernier, aucune prévision particulière de la météo ne laissait craindre un tel événement. Il s'agit là d'une des avalanches les plus meurtrières de l'année en France. Un ressortissant slovaque a été arrêté avec 100 kilos de médicaments qui peuvent être utilisés pour fabriquer de la pervitine, une drogue de synthèse mieux connue en France sous le nom de méthamphétamine et qui est la drogue dure la plus consommée en République tchèque. Il a été incarcéré dans la ville d'Olomouc en Moravie. Âgé de 48 ans, l'homme encourt jusqu'à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable de production illégale et de trafic de stupéfiants. Le montant total de la saisie s'élève à environ 2 millions de couronnes. Moins de 6 mois après la mise en service de nouvelles stations de la ligne de métro A à Prague, qui la prolonge jusqu'au quartier de Motol. 2 d'entre elles ont fermé de samedi matin, 8h, jusqu'à dimanche soir pour des travaux d'entretien et de réparation. Les rames de métro s'arrêteront pendant 2 jours à la station de Petchiné et des bus de remplacement seront mis en place pour faire le trajet jusqu'au terminus Nemotnice-Motol. Les stations en travaux devraient rouvrir leurs portes lundi matin. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Ludmilla, le soleil devrait faire son retour sur l'ensemble du territoire, malgré quelques brumes matinale. Les températures maximales oscilleront entre 23 et 27 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Alžbeta Tichá.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices de Radio Prague à l'écoute de ce magazine consacré à l'actualité tchèque. Merci à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. Au programme de ce mardi, nous nous pencherons tout d'abord sur la première session parlementaire de la Chambre des députés après les vacances. Nous poursuivrons ensuite avec une présentation du restaurant La Petite Prague qui se trouve à Lille et qui propose la cuisine traditionnelle tchèque. Enfin, comme chaque mardi, nous retrouverons la rubrique Panorama avec un entretien avec Artemio Banki, le représentant de la société Sirena Film, qui est le coproducteur tchèque du film Marguerite de Xavier Giannoli. Bonne écoute à toutes et à tous. « Les députés tchèques retrouvent les bancs de la chambre basse du Parlement ce mardi pour la première session parlementaire après les vacances. Un programme chargé les attend puisqu'ils doivent notamment discuter des biocarburants, d'une possible hausse des limitations de vitesse sur certaines portions d'autoroute ou encore sur un éventuel bonus accordé aux retraités tchèques. Autant de sujets qui divisent majorité et opposition, mais sans doute pas autant que le projet porté par le ministère des Finances de registre électronique centralisé des recettes des entreprises. Plus de détails avec Pierre Maignan.
Les débats promettent d'être houleux à la Chambre des députés pour cette session parlementaire qui s'achève vendredi. En juin dernier, les invectives avaient fusé entre l'actuel ministre des Finances, le milliardaire Andrej Babiš, propriétaire de la plus grande entreprise d'agroalimentaire tchèque et président du mouvement ANO, et l'un de ses prédécesseurs, le conservateur Miroslav Kalousek du parti Top 09. Les deux hommes s'accusant mutuellement d'être des voleurs et des menteurs. À l'époque, l'une des pommes de discorde majeure consistait dans le projet de registre électronique centralisé des recettes des entreprises, un système inspiré du modèle croate qui doit permettre de tracer le paiement de la TVA à partir de mi-2016. Il avait été adopté en première lecture par les parlementaires, lesquels doivent de nouveau se pencher sur ce texte. Très remontée, l'opposition de droite, incarnée par les partis ODS et Top 09, a menacé à plusieurs reprises d'avoir recours à l'opposition parlementaire pour lutter contre un texte qu'elle estime construit contre les commerçants. Miroslav Kalousek précise. Ce projet ne profitera à personne. En plus de cela, il ne signifie pas seulement des charges inutiles, des tracas inutiles, en lien avec toute une série de mesures prises par le gouvernement. Il correspond aussi à une grande perte au niveau de la liberté économique. Et c'est, je pense, la principale raison qui pousse le gouvernement à agir de la sorte. Nous sommes prêts à nous opposer au projet de registre électronique, pas seulement des mois entiers, mais durant des années, a ajouté le député conservateur. Côté majorité, où on brandit l'exemple croate de recettes supplémentaires liées à la TVA et d'un budget excédentaire, on se dit prêt à prendre les mesures nécessaires pour empêcher le blocage des travaux parlementaires, en prolongeant par exemple les débats en soirée et en limitant les prises de parole redondantes. Un autre dossier pourrait par ailleurs donner l'occasion à Andrej Babiš et Miroslav Kalousek de s'échiner joyeusement, l'étude en deuxième lecture d'un amendement sur de nouveaux soutiens aux biocarburants. L'opposition dénonce un nouveau conflit d'intérêts évident, le groupe Agrofert, propriété du ministre, ayant des sociétés impliquées dans la production et le commerce de biocarburants. Les parlementaires doivent également se prononcer sur l'augmentation de la vitesse maximale autorisée sur certaines portions d'autoroute à 150 km/h au lieu des 130 km/h actuels, un projet qu'ils avaient validé en avril malgré le feu nourri des critiques et que les sénateurs avaient d'ailleurs plus tard rejeté. Si les députés s'entêtent et ne suivent pas l'avis de leurs collègues du Sénat, le chef de l'État Miloš Zeman a déjà annoncé qu'il s'opposerait par son veto à la mesure. Et ce n'est pas tout, durant ces 4 jours de session parlementaire, il sera également question du projet d'une prime exceptionnelle en décembre pour les retraités de 600 couronnes, soit environ 22 euros, de la loi anti-tabac qui prévoit l'interdiction de la cigarette dans les restaurants, ou bien encore de la possible fermeture des supermarchés lors de certains jours fériés.
Des restaurants proposant de la cuisine tchèque en France, il n'y en a pas beaucoup. Il en existe peut-être même un seul actuellement. À proximité du centre historique de Lille, place du Maréchal Leclerc, la petite Prague est ouverte depuis 2 ans et demi désormais. En cas de nouvel exploit contre la Serbie en quart de finale de l'Eurobasket ce mercredi au stade Pierre Mauroy, c'est d'ailleurs peut-être là, qui sait, que les joueurs tchèques viendront célébrer leur qualification. En attendant, Guillaume Narguet est allé rencontrer son patron. Autour d'une Bernard Pivot ambrée et d'un poulet aux champignons préparé par sa compagne slovaque, maîtresse de maison, Ladislav Laštovka nous en a dit un peu plus sur ce restaurant pour le moins original en France et la spécialité tchèque préférée de ses clients.
Depuis avril 2013. Donc avant, on avait un petit restaurant de 25, une trentaine de couverts. Et depuis novembre l'année dernière, on a réussi à grandir un petit peu, donc on a changé de quartier, on est venu plus près du centre et on a un établissement aujourd'hui qui peut accueillir jusqu'à à peu près centaine de personnes avec les terrasses.
Est-ce que ça a été difficile d'attirer cette clientèle? Malgré tout, la cuisine tchèque n'est pas très connue en France. Alors, comment attirer cette clientèle?
Bah, évidemment, encore aujourd'hui, c'est difficile. On a de la clientèle, 95% de clientèle, c'est clientèle de bouche à l'oreille. On ne travaille pas aussi comme les autres restaurants. Donc on fait quelque chose plutôt familial, convivial. J'essaie de découvrir finalement bien la cuisine tchèque. J'essaie d'expliquer ce qu'on fait. C'est aussi une partie ce qui fait que ça se développe, que la clientèle française surtout qui reviennent, qui ramènent des amis, etc., parce qu'ils trouvent que c'est présenté autrement. Ils retrouvent un petit peu l'ancien système en France qui est devenu un petit peu perdu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui,
c'est-à-dire
aujourd'hui, comme on va dans un restaurant, c'est pas évident. Donc, c'est un restaurant qui marche super bien, donc on a très peu de temps pour manger. Et souvent, ils nous poussent un petit peu de consommer plus vite l'entrée, plat et dessert pour pouvoir vendre la table par la suite. Donc la façon d'auberge, un petit peu des tables approchées, les clients qui parlent entre eux, c'est un petit peu un truc qui est aujourd'hui perdu. Donc il y a des clients qui apprécient et qui finalement, malheureusement, c'est un système qui est plus difficile que un autre système d'une cuisine étrangère qui est plus connue dans le monde. Mais pour le moment, on est là. Donc ça veut dire que ça plaît quand même aux gens.
Vous avez à peu près une dizaine de plats, principaux sur votre carte. Quelles sont les spécialités que vous proposez?
On a un petit peu plus que dizaine de plats. Au début, il n'y avait pas du tout de la carte. On a travaillé qu'avec l'ardoise. Et au fur et à mesure, on a fait découvrir plusieurs plats. Et tout ce qu'on a aujourd'hui à la carte, ça a été mis par nos clients.
Et comme aujourd'hui, donc, que trouve-t-on sur votre carte?
Des plats traditionnels comme goulash, ptachki, après il y a...
Qu'est-ce que c'est ptachki?
Ptachki, c'est un ragoût du bœuf à la moutarde tchèque, cuit avec des cornichons, œufs durs, saucisson sec, etc. Bizarrement, ce que j'ai jamais pensé, on a à la carte aussi d'un plat un petit peu cuisine rapide en République tchèque. Des beignets de fromage, le fromage pané, que j'ai jamais pensé. Au début, on n'avait pas du tout. Et c'est un plat qui est énormément demandé par la clientèle française. Donc j'étais bien surpris. Je pense qu'on a beaucoup de plats beaucoup meilleurs.
Quoi par exemple?
Je ne sais pas, on a des plats comme Switchkova. Je pense qu'on peut faire découvrir aussi beaucoup de plats sucrés. C'est une sorte de cuisine qui n'est pas très connue en France ou qui n'est pas très habituée.
Vous pensez par exemple au Knedlicki?
Oui, Knedlicki.
Qui ne figure pas dans votre carte?
Qui ne figure pas dans notre carte, mais qu'il y en a pas mal de clients qui réservent. Parce qu'il y a beaucoup de plats qui ne sont pas à la carte, mais sous la commande. Vous pouvez les commander et on vous les fasse. Pour revenir sur le fromage, c'est un fromage par rapport au fromage français qui n'a pas trop de goût. Et c'est un petit peu un plat ou une sorte de cuisine pour comparer comme kebab en France. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs pourquoi ils ont apprécié, parce qu'ils disent toujours, vous pouvez ça acheter à Prague, N'importe où, n'importe quel ordre, n'importe quoi, dans le pas ou comme ça. C'est un petit peu dommage. Il y a pas mal de choses à découvrir en République tchèque. Et si les Français, la première chose qu'ils ont découvert, c'est le fromage pané. Pour moi, je pense que c'est... On a donné très peu pour étrangers à découvrir.
Comme je vous l'ai déjà dit, la deuxième partie de notre émission se poursuivra avec la rubrique Panorama. Au programme aujourd'hui, le cinéma. Présenté en compétition à la Mostra de Venise, le film Marguerite de Xavier Giannoli avec Catherine Froh dans le rôle titre sort jeudi 24 septembre sur les écrans tchèques. Ce long métrage qui suit le destin d'une diva amatrice de peu de talent dans la France aristocratique des années 20 est une coproduction entre la France, la Belgique et la République tchèque où il a été entièrement tourné. Artemio Banky, le directeur de la société Sirena Film, le coproducteur tchèque, a présenté cette œuvre pour Radio Prague.
Panorama.
Panorama.
Marguerite, c'est une comédie dramatique de Xavier Giannoli qui est un film sur une femme très riche qui a une passion, la musique, l'opéra, et qui chante. Elle fait ça depuis des dizaines d'années. Et elle chante devant son public d'amis, de proches. Elle fait du petit concert dans son château. Tout le monde l'applaudit, mais personne ne lui dit la vérité parce qu'elle est très riche. C'est qu'elle chante complètement faux, que c'est une castafiore, c'est une réelle castafiore. Et tout, elle vit dans ce monde de mensonges. Et à la suite de circonstances d'un journaliste qui écrit un papier la mettant en avant, en fin de compte, elle se décide qu'elle a besoin d'un vrai public et que là, qu'elle va se louer un opéra et qu'elle va jouer devant un vrai public. Et c'est là que les problèmes commencent parce que. Évidemment, le vrai public ne va pas pouvoir lui mentir. Et donc, c'est un film, comme souvent les films de Xavier Giannoli, où il y a beaucoup d'ambivalence, où il y a à la fois du beau et du plus moche. Chaque personnage est bon et mauvais, à la fois fou et sage. C'est un film sur la passion. C'est au-delà de ça, c'est un film sur la passion. C'est inspiré d'une histoire vraie qui a existé aux États-Unis, etc. Mais c'est vraiment inspiré. Et c'est vraiment une adaptation, c'est pas un biopic.
Avec votre société de production, Sirena Film, vous avez coproduit ce film. Comment vous êtes joint au projet? Comment c'est né?
Étrangement, c'est né il y a très longtemps. Xavier, qui est quelqu'un que je connais depuis 15 ans, tournait ici il y a. Bien 10 ans, il y a bien 10 ans, on tournait ensemble. Ici, il marchait dans les rues de Prague et il disait, mais en fait, j'ai une idée, j'aimerais faire un film sur ça, sur ce sujet, sur le sujet de cette diva Kinson, sur cette castafiore, et je voudrais le tourner ici. Et on marche dans les rues, on va au restaurant, on boit un verre, enfin. Et on en parle. Et beaucoup plus tard, il dit, voilà, j'ai écrit le scénario. Ça m'a pris, j'ai fait d'autres films. J'ai fait Stallone à l'origine, quand j'étais chanteur, etc. Maintenant, j'ai envie de faire celui-ci. Et le film s'appellera Marguerite. Et je veux qu'on le tourne ensemble. Et alors que le film n'avait pratiquement pas d'argent à ce moment-là, enfin, il avait eu juste l'accord de Catherine Froh qui voulait tourner avec lui parce que c'est un grand réalisateur. Il a dit, bon ben voilà, Artemio, est-ce que tu veux être coproducteur? Tu seras le coproducteur tchèque. Et moi j'ai dit, ben parfait, grâce au nouveau système en plus de la République tchèque et du ministère de la Culture, on pourra venir avec une partie du financement du film. Et commençons, faisons un peu des repérages, etc. Et en fin de compte, très tôt, même avant même qu'il ait exactement le coproducteur français, j'étais main dans la main avec le réalisateur. Après, il y a eu un producteur français qui est plus important que le producteur tchèque parce qu'il y a plus de financement venant de France. Mais c'est comme c'est un peu l'histoire du projet.
Donc le film a été tourné à l'automne dernier à Prague.
Oui.
Et en tant que producteur tchèque, j'imagine que vous avez eu peut-être un rôle à jouer. Comment ça s'est passé?
Donc comme on disait, tout le tournage a été fait ici. Au moment où on a eu la première version de scénario, on a commencé à réfléchir, que ce soit moi, mais aussi mes équipes, le location manager, l'assistant réalisateur, le chef déco, qui est tchèque. On a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Xavier comme lieu de tournage. Parce que au début, il disait, oui, je sais qu'il y a des beaux opéras à Prague, mais il n'y a pas que l'opéra qui joue. Il y a aussi un château, il y a aussi un hôpital qui est un peu spécial, etc. Et donc, on lui a proposé tous ces lieux qu'il a choisis, évidemment. Il y a certains qu'il n'a pas choisis et certains qu'il a choisis. On a eu aussi à un moment toute une discussion de savoir quelle serait l'équipe française et quelle serait l'équipe tchèque. L'équipe tchèque est beaucoup plus importante que sur un film classiquement venant se tourner en République tchèque. Donc il y a des postes qui ont été faits par les Tchèques, qui d'habitude ne le sont pas. D'ailleurs, par exemple, le chef des courses, qui est un des postes les plus importants, d'autant plus sur un film d'époque, il est tchèque. Ça, c'est l'exemple même des choses. Donc, et puis après, il y a eu tout un rôle sur comment conduire la coproduction en termes de financement, de stratégie de financement qu'on a fait avec le français, avec le producteur français, mais qu'on a fait réellement de concert, qui là encore n'était pas une production où juste on vient tourner à Prague parce que c'est moins cher et qu'il y a des beaux décors. C'était aussi le cas, c'est aussi moins cher et il y a aussi des beaux décors, mais l'implication était beaucoup plus forte. J'ai passé beaucoup plus de nuits blanches en fait en réfléchissant au film que sur d'autres.
Il me semble que vous avez un petit rôle de figurant aussi, on vous voit monter à l'opéra, non?
Oui, j'avais un rôle de figurant. Oui, j'ai... Ça, c'était... En fait, j'avais un rôle plus important. Il m'a coupé au montage, Xavier. Mais bon, c'est pour le bien du film. J'avais le rôle d'un poète dadaïste et il trouvait que j'avais une tête marrante. Donc, il m'a mis dans un costume en carton de poète dadaïste qui, normalement, déclamait un poème dans une langue dadaïste, donc une langue qui n'existe pas. Et après, il me disait, on va te revoir aussi remontant à l'opéra. Bon, il a coupé la scène de mon poème. Peut-être que j'étais très mauvais, ou peut-être qu'en fait, ça ne marchait pas dramatiquement. Et ce qui était très embêtant, c'est que je passais 3-4 jours dans ce costume dans lequel je ne pouvais pas bouger les jambes ni les bras. Et que c'était quand même... Enfin, j'étais complètement crevé.
Alors, Catherine Franc, elle a un rôle très exigeant. Elle est spectaculaire dans ce film. Comment elle a vécu le tournage?
On fumait des cigarettes. Sur le tournage, on était deux fumeurs invétérés, donc on fumait les cigarettes en dehors du plateau ensemble. Mais elle s'est préparée... Pour ce film, elle a refusé beaucoup de rôles. Enfin, le film s'est reporté plusieurs fois, comme ça arrive souvent au cinéma. Et depuis 2 ans, à peu près, elle n'a pas tourné au cinéma, ou très très peu, je crois. Bien que ça soit une actrice excessivement populaire, donc c'est un peu presque un retour. Et elle n'a pas tourné, non pas parce qu'on ne lui a pas demandé de tourner, parce que Catherine Franc est une des actrices les plus populaires en France, donc elle a reçu beaucoup de propositions, mais elle a refusé pour le film de Xavier. Donc elle s'est préparée longtemps. Elle a pris des cours de chant, elle a repris des cours de chant, elle connaissait tous les dialogues par cœur. Xavier est un réalisateur avec ses acteurs excessivement exigeants, et elle était à la hauteur de cette exigence. Ils ont beaucoup répété auparavant. Ils ont ensemble incarné Marguerite, et non pas de la manière où d'habitude elle incarne ses personnages, mais d'une autre manière. Ils ont réinventé une Marguerite à deux, entre évidemment Catherine et Xavier. C'est pour ça qu'elle est exceptionnelle, je pense, que son jeu est exceptionnel, parce que on l'a jamais vue comme ça. Elle joue une grande bourgeoise. Elle joue une grande bourgeoise un peu folle, alors qu'habituellement elle joue une femme populaire un peu idiote, très sympathique et un peu idiote. C'est la Catherine Faucon qu'on connaît. Là, c'est une grande bourgeoise qui est complètement folle et qui est complètement passionnée par la musique.
Parlons un petit peu de la République tchèque. Vous avez dit qu'il y a un nouveau système qui a été mis en place pour faciliter le fait d'attirer des tournages étrangers. Quel est ce système ?
Alors, le système qui s'appelle Pobitki, qui est l'équivalent d'un taxe, d'un crédit d'impôt, part du principe que lorsque vous dépensez 100, on va vous rendre 20 à la production. Ça va financer 20. C'est basé sur une réalité tout simplement économique, qui est de dire, en fin de compte, quand une équipe de tournage va dépenser 100, ça va rapporter 30 à l'État. D'un point de vue pratique, donc ça réduit les coûts, mais ou même plus simplement, ça amène de l'argent sur le film. Et du coup, ça permet, c'est quelque chose qui fonctionne en cascade, ça permet que ce premier financement fasse que la République tchèque est réellement coproductrice, et que du coup, devenant un film franco-tchèque dans notre cas, on puisse aussi demander de l'argent à l'Europe, parce que c'est un film du coup européen. Les gens viennent tourner aussi en République tchèque parce que les décors sont beaux, qu'ils sont pas très loin, que les équipes techniques sont bonnes, même très bonnes, et que c'est moins cher que de tourner dans d'autres pays. Mais c'est un outil supplémentaire qui permet que la République tchèque existe aussi sur des films internationaux, de manière coproductrice, de manière active.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui vous était présenté par Alžbeta Tichá. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague www.radio.cz/fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!